VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
John Linden en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui, édition du mardi 9 janvier 2018. À la une, rassemblement public interdit et école fermée en Zambie, où une épidémie de choléra a déjà fait au moins 61 morts. L'ONU va appuyer la Guinée équatoriale dans ses efforts de stabilisation après la tentative de coup d'État annoncée par Malabo. Climat tendu en Tunisie, où des affrontements entre police et manifestants ont éclaté dans plusieurs villes. Dialogue renoué entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Pyongyang va envoyer une équipe aux prochains Jeux olympiques d'hiver. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. En RDC, les enterrements des 48 victimes des inondations à Kinshasa ont commencé dans plusieurs cimetières. Les autorités ont assisté à l'enterrement de 5 enfants d'une même famille noyés dans leur maison quand des pluies torrentielles ont submergé Kinshasa dans la nuit de mercredi à jeudi. 4 enfants hébergés dans un orphelinat ont également été inhumés. Le secrétaire général adjoint pour les opérations de paix des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, réclame à Kinshasa des enquêtes sur les auteurs des violences du 31 décembre commises par des forces de sécurité congolaises contre des civils. Il est essentiel que les autorités nationales compétentes et diligentes les enquêtes nécessaires pour établir les responsabilités et traduire en justice les auteurs présumés de violations des droits de l'homme, a indiqué M. Lacroix devant le Conseil de sécurité. En Centrafrique, entre 25 000 et 30 000 personnes ont fui les combats qui ont eu lieu depuis le 27 décembre autour de la ville de Paoua. Dans le nord-ouest, un confrère sur place a parlé de près de 120 morts. Ces affrontements opposent le groupe armé Mouvement national pour la libération de la Centrafrique, créé en octobre par le général autoproclamé Ahmad Bahar au groupe armé Révolution et Justice. Procès en appel de Jean-Pierre Bemba à la CPI, l'ancien vice-président congolais a été jugé responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le mouvement de libération du Congo, en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Sa défense a demandé à la CPI d'annuler le jugement de première instance, accusant les juges de manque d'impartialité. Les Nations Unies vont appuyer la Guinée équatoriale dans ses efforts de stabilisation après le coup d'État que Malabo a affirmé avoir déjoué fin décembre. L'annonce a été faite par François Luceni Fall, envoyé spécial de l'ONU dans ce pays. Yacouba Ouédraogo.
Le diplomate guinéen François Luceni Fall dit avoir reçu des assurances du président Teodoro Obiang Nguema sans donner de précision. Il a souligné que les Nations Unies vont appuyer le pays dans ses efforts de stabilisation. L'émissaire de l'ONU est arrivé dimanche en Guinée équatoriale pour recueillir plus d'informations sur la tentative de coup d'État annoncée par Malabo. Il a rappelé que la prise de pouvoir par la force est condamnée par l'Union africaine et les Nations Unies. Le principal parti d'opposition équato-guinéen, citoyen pour l'innovation, qui affirme que certains de ses militants ont été arrêtés, a indiqué vouloir rencontrer M. Fall sans succès jusque-là. Selon ce parti, les forces de sécurité qui avaient assiégé son quartier général ont abandonné leur position lundi, peu avant l'audience de M. François Luceni Fall au palais présidentiel.
Au moins 80 personnes ont trouvé la mort dans l'état de Benue dans le centre du Nigeria depuis le 31 décembre, lors d'affrontements. Ces violences entre éleveurs en majorité musulmans et agriculteurs chrétiens se sont intensifiées après le nouvel an, notamment en raison d'une nouvelle loi qui interdit aux électeurs de bétail nomades de se déplacer à l'intérieur de l'État. Les militaires nigérians, appuyés par des soldats des pays voisins, ont lancé une grande offensive contre les deux factions du groupe islamiste Boko Haram et leurs dirigeants dans le nord-est du Nigeria, Abubakar Shekau dans la forêt de Sampiza et Maman Nour dans la région du lac Tchad sont particulièrement visés. C'est ce qu'annonce l'armée nigériane qui ajoute que M. Nour a été blessé et une de ses femmes tuée dans un bombardement aérien et que Shekau est un cheval épuisé. Dans le même registre de la guerre contre Boko Haram, cette fois au Cameroun, VOA Africa a appris de sources administratives locales qu'un membre du comité de vigilance a été tué hier nuit à Djamazaf, dans le Mayo Moscota, à l'extrême nord du Cameroun. Signalons également que deux soldats camerounais de la force multinationale mixte ont trouvé la mort dans des affrontements à Sambisa, au Nigeria. En Zambie, les écoles sont fermées à cause d'une épidémie de choléra qui a déjà fait au moins 61 morts. Les détails avec Morgan Guiriek.
Les autorités ont annoncé le report de la rentrée scolaire, initialement prévue hier. Les rassemblements publics sont interdits. Sur ordre du président Edgar Lungu, l'armée a été déployée dans les rues de la capitale pour empêcher l'activité des vendeurs de rue. Dans le bidonville de Kanyama, à Lusaka, foyer de l'épidémie, un couvre-feu a été instauré. Malgré ces mesures, la maladie se propage à travers la capitale et dans le pays. D'après le ministre de la Santé, 114 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. On compte donc plus de 2600 malades depuis que l'épidémie s'est déclarée. Au moins 61 personnes sont décédées. Le choléra est lié aux mauvaises conditions d'hygiène et à la pauvreté. C'est une infection intestinale très contagieuse qui provoque des diarrhées qui peuvent être souvent mortelles. En 2016, la maladie a touché 38 pays dans le monde et fait près de 100 000 morts.
Des affrontements nocturnes ont éclaté dans plusieurs villes de Tunisie entre la police et des manifestants qui protestaient contre le chômage, l'inflation et la hausse des prix. Ces accrochages ont fait un mort à Tebourba, à l'ouest de Tunis. On fait le point avec Jacques Aristide.
44 personnes ont été interpellées à travers le pays pour port d'armes blanches et divers faits de violence, d'après le ministère de l'Intérieur, qui affirme que ce qui s'est produit n'a rien à voir avec la démocratie ou des manifestations contre des hausses de prix. Selon un porte-parole, des manifestants ont incendié des postes de police, pillé des magasins, des banques et endommagé des biens publics et privés. Le Front populaire a appelé à la poursuite du mouvement. Cette coalition de l'opposition accuse le gouvernement tunisien de cibler injustement les pauvres et les classes moyennes par ces mesures d'austérité. Mais le gouvernement dit n'avoir d'autre solution que hausser les prix pour tenter de réduire le déficit public et satisfaire les exigences des partenaires financiers. Le Premier ministre Youssef Chahed a appelé au calme, annonçant une amélioration de la conjoncture économique cette année. Tout en admettant le droit de ses compatriotes à manifester, il a en revanche déclaré que les violences sont inacceptables.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord va envoyer une délégation aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud et des contacts entre militaires vont être engagés, ont convenu les deux pays lors d'un exceptionnel face-à-face. Nathalie Barge.
Cette annonce marque un grand pas en avant dans l'esprit olympique. S'est félicité le président du Comité international olympique, Thomas Bach. Pour améliorer la communication entre les deux armées, Séoul et Pyongyang ont par ailleurs décidé de rétablir une liaison téléphonique qui avait été coupée début 2016. Les discussions se tenaient à Panmunjom, dans la zone démilitarisée qui divise la péninsule. C'est dans ce village frontalier qu'a été signé l'armistice entre les deux pays qui sont toujours techniquement en guerre. La délégation nord-coréenne a traversé à pied la ligne de démarcation militaire pour se rendre à la Maison de la Paix, le lieu des entretiens côté sud-coréen, à quelques mètres de l'endroit où un transfuge a fait défection il y a 2 mois.
La Suède, gros donateur pour les Palestiniens, met en garde Washington contre une réduction de fonds américains à l'agence de l'ONU chargée de l'aide aux Palestiniens, jugeant qu'elle déstabiliserait la région et serait très négative. Selon une source diplomatique, l'administration américaine n'a pas versé, comme elle aurait dû le faire au 1er janvier, 125 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Et puis les Nations Unies appellent Israël à renoncer à son programme, forçant raison, des milliers de migrants africains à quitter le pays d'ici mars sous peine d'arrestation. Le programme concerne quelque 38 000 personnes venues principalement d'Érythrée et du Soudan. 3 500 dollars et un billet d'avion sont offerts à toute personne voulant quitter le pays d'ici mars ou une arrestation le cas échéant. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Le chômage reste pour les Ivoiriens le problème le plus important. L'enquête d'Afrobaromètre indique que le chômage touche environ 76% d'Ivoiriens de manière endémique, les différentes tranches d'âge, de genre et de niveau d'instruction. Cette enquête montre également que les efforts du gouvernement ivoirien pour apporter une solution ne semblent pas encore donner des résultats satisfaisants. Plus de 3 Ivoiriens sur 5, soit 62% des sondés, estiment que le gouvernement répond plutôt mal ou très mal à la création d'emplois. Le président togolais Fornia Simbe s'est engagé à garantir 20% des marchés publics aux jeunes entrepreneurs locaux qui bénéficieront par ailleurs de procédures allégées. Cette promesse vise à stimuler l'inclusion des jeunes et renforcer l'initiative privée pour apporter des solutions aux problématiques de l'éducation et de l'emploi. La Banque centrale de Tanzanie a suspendu 5 banques pour n'avoir pas atteint le seuil de capital minimum de 2 milliards de shillings tanzaniens exigé depuis 2012. Les banques concernées représentaient un risque pour la stabilité du système financier et pour leurs épargnants. Un rapport financier publié en mars 2017 révèle que 4 banques sur 41 banques commerciales présentes en Tanzanie contrôlent près de 70% des parts de marché en termes d'actifs, de capitaux, de dépôts et de prêts.
Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par l'installation du comité de normalisation de la FEMAFOOT à Bamako.
Placée le mois dernier sous tutelle de la FIFA, la Fédération malienne de football voit ce mardi son comité s'installer à Bamako. La délégation conjointe FIFA-CAF est arrivée dans la capitale malienne, composée de Véron Mosengo Omba, Segbe Pritchett, Lucas Nicolas et Eladji Wak Diop. Elle doit recevoir le secrétaire général de la FEMAFOOT, Segui Kanté, puis les représentants des deux camps, celui de Mamoutou Touré Bavieux et de Salaha Babi. Cette mission procédera à l'installation du fameux comité de normalisation et cette séance ne sera pas publique.
Le WAC Casablanca sans entraîneur.
Et oui, Ousina Mouta et le WAC Casablanca, c'est fini. 2 mois après avoir remporté la Ligue des Champions, le coach marocain a été limogé aujourd'hui. Le technicien de 48 ans paye la mauvaise passe actuelle de ses joueurs qui ont subi lundi en match en retard face au KCM, leur 6e défaite d'affilée.
Les équipes chinoises se battent pour Aubameyang.
La Fédération chinoise de football menace 2 clubs de la Super League de sanctions s'ils ne respectent pas les règles financières sur les transferts dans le cadre de la surenchère pour recruter l'attaquant franco-gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. Les champions en titre de la Super League chinoise Guangzhou Evergrande seraient prêts à payer 70 millions d'euros pour le joueur de 28 ans. Ils sont en concurrence avec Beijing Guoan pour recruter Aubameyang.
Et puis Nicolas, Zidane veut prouver sa valeur alors que le Real est loin derrière pour le titre en Espagne.
Et j'ai envie de montrer que je peux être un bon entraîneur aussi dans la difficulté, souligne Zinedine Zidane dans les colonnes de France Football. Alors que l'entraîneur du Real Madrid traverse une mauvaise passe en championnat d'Espagne, le Real est actuellement 4e avec 16 points de retard sur le leader Barcelone. En Liga, le Real reste sur une cinglante défaite, 3-0 lors du Classico face au Barça et un nul contre le Celta Vigo. On rappelle le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, match aller le 14 février.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Minnesota n'a fait qu'une bouchée de Cleveland, 127-99. Les Raptors de Toronto se déplaçaient à Brooklyn, où ils ont difficilement battu les Nets, 114-113 après prolongation. Golden State, victoire contre Denver, 124-114. Et puis les Rockets, toujours privés de James Harden, ont dominé Chicago, 116-107. Tandis qu'à Los Angeles, les Clippers ont arraché une victoire face à Atlanta, 108-87.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, présenté par John Lyndon, production Michel Joseph. Place à présent au dossier du jour. Et on commence par le Cameroun, où l'inscription des électeurs pour les présidentielles 2018 est en cours. Et l'ECAM, l'organe en charge des élections, rencontre à la fois l'apathie des électeurs et les défis liés à l'insécurité dans certaines parties du pays. Reportage de notre correspondant sur place, Moki Edwin Kinzeka, rendu par Claire Morin-Gibourg.
Au marché Mfundi à Yaoundé, des membres de l'ELECAM, l'organe de gestion des élections du Cameroun, vont d'un magasin à l'autre pour convaincre les électeurs de s'inscrire sur les listes. Winifred Bouey, une femme d'affaires de 34 ans, a décidé de ne pas s'inscrire. Lors de la dernière élection en 2013, je suis allée voter, mais j'ai vu que quelqu'un avait déjà voté pour moi. Et je n'étais pas la seule dans ce cas. Les partis politiques se plaignent que les élections sont toujours truquées par le gouvernement au pouvoir. Et je ne pense pas que mon vote changera quoi que ce soit. Le Cameroun prévoit d'organiser des élections locales, parlementaires et présidentielles à partir de septembre prochain. Si ces scrutins sont tenus séparément, les élections pourraient se poursuivre en octobre. Pour beaucoup de Camerounais, il n'y a aucun suspense si le président Paul Biya cherche à se faire réélire. C'est l'un des chefs d'État les plus anciens d'Afrique. Le parti au pouvoir contrôle le Parlement et la plupart des conseils municipaux depuis des décennies. Les fonctionnaires de l'ELECAM, nommés par le président, ont rejeté ces allégations de trucage des élections. Outre le manque de mobilisation des électeurs, ces fonctionnaires sont aussi en butte à l'insécurité dans plusieurs régions. Le Cameroun connaît des tensions dans deux régions anglophones où les séparatistes ont déclaré l'indépendance de l'Ambazonia. La crise a engendré des troubles violents. L'inscription des électeurs a été suspendue dans certains endroits, comme la division Manyu dans le sud-ouest du Cameroun, où des affrontements ont régulièrement eu lieu entre l'armée et les séparatistes. Par ailleurs, le Cameroun subit les attaques récurrentes du groupe Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Beaucoup de gens qui avaient fui les violences ne sont pas encore rentrés chez eux. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a dénombré 240 000 personnes déplacées. Paulin Djorwe, responsable d'un parti de l'opposition, le Mouvement pour la Défense de la République, témoigne.
Ce précieux sésame aujourd'hui se fait très rare. Surtout que certaines postes d'identification dans nos zones d'influence ont été fermées. Vous avez par exemple à Mouloudaï qui n'a pas de centre d'identification. Il y a Kalfou qui n'en a pas. Il y a Djiglaou qui n'en a pas. Il y a Dachira qui n'en a pas. Si l'ECAM et les pouvoirs publics veulent que les Camerounais s'inscrivent massivement, il faut rouvrir ces centres d'identification.
Et l'ECAM affirme qu'elle ne peut pas se rendre dans les zones de conflit dans le nord et dans certaines localités des régions anglophones. Pour le moment, 6,5 millions d'électeurs sont inscrits.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer Le Monde au féminin. Ce mardi, à 19h, temps universel. LMF reçoit comme invité Carmen Eliam, créatrice de bijoux contemporains, pour une discussion sur le travail artisanal, avec des reportages de nos correspondants qui nous amèneront à la rencontre de familles démunies à Boaké, de jeunes volontaires à Lomé et d'écoliers aveugles à Yaoundé. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h, temps universel sur VOA Afrique. À tout à l'heure.
Au Burundi, les véhicules de transport usés seront interdits à la circulation sur les routes. Le président Pierre Nkurunziza l'a indiqué 2 jours avant son discours de fin d'année. Il souhaite éviter ainsi le nombre d'accidents qui ont augmenté l'année dernière et demande également aux investisseurs de se mettre ensemble pour acheter des bus modernes. Mais les transporteurs indiquent que les moyens dont ils disposent ne leur permettent pas d'acheter de nouveaux véhicules. Reportage à Bujumbura de Christophe Nkurunziza.
Dans le parking pour les bus de transport situés dans la zone de Reiro, en commune urbaine de Moura, des dizaines de bus attendent leur tour pour charger les passagers qui rentrent dans les différents quartiers au nord et au sud de la capitale. S'il est vrai que la plupart de ces bus sont en bon état, certains sont malheureusement plutôt vieux. Pour le président burundais Pierre Nkurunziza, ces vieux bus de Marquia, ces Toyota Coaster, ne seront plus autorisés au courant de cette année à transporter les personnes et les biens au Burundi. Pourquoi le président Nkurunziza ?
Nous n'accepterons plus qu'un vieux bus circule au Burundi. Les clients qui s'assoient sur des clous ou des fils ou des gens qui quittent le bus quand ils veulent flamber, nous n'accepterons plus de tels cas sur les routes du pays. Nous n'accepterons pas non plus d'assister impuissants qu'il y ait des accidents où meurent de nombreux Burundais. Il faut qu'il y ait des gens qui investissent dans le transport avec des règles claires. Il faut que ces personnes se mettent ensemble. Vaut mieux aller vendre des arachides ou de la farine de maïs au lieu d'amener en circulation une voiture que l'on vient d'acheter 500 000 francs burundais. On achète souvent des bus neufs avec l'Office des transports au Burundi, mais nous demandons aux associations des transporteurs de se mettre ensemble et d'investir.
À côté de ces bus qui transportent les habitants de la capitale, Bujumbura, un bureau a été érigé par des responsables qui font payer des tickets de 1000 francs burundais aux chauffeurs de ces bus. Parmi eux, un certain Roger Nyavenda, qui a eu jadis un bus de transport, mais aujourd'hui fait partie de l'association des transporteurs. Il estime que les moyens font défaut à la plupart des transporteurs.
La décision est bonne parce que il arrive des fois qu'il y a beaucoup de dégâts sur la route à cause des vieux véhicules. Mais cela est causé par la crise qui circule dans la population, mais dans les patrons des véhicules. L'outillage coûte cher, les pièces de rechange coûtent cher. Il n'est pas à mesure maintenant d'acheter un autre véhicule. Ce que nous demandons à notre père, le président de la République, c'est essayer maintenant de voir si on peut avoir capital quelque part. L'État peut donner une sorte de crédit. Comme ça, les gens, après avoir travaillé, ils les remboursent. Comme ça, son véhicule reste en bon état.
Clotilde Monimha habite le quartier de Kamengi au nord de Bujumbura et se rend souvent en ville en prenant ses bus de transport en commun, tout en affirmant que ce domaine des transports n'attire pas la plupart des investisseurs burundais. À l'intérieur du pays, tout comme dans la capitale, il est aujourd'hui difficile de trouver des bus neufs de transport, sauf pour quelques rares propriétaires d'agences de transport. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En Guinée, indignés par l'insalubrité de leur capitale, les habitants de Conakry ont décidé de prendre les choses en main. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient pour sensibiliser la population. Tandis que sur le terrain, les initiatives citoyennes sont de plus en plus nombreuses pour changer le visage de la capitale guinéenne. Insalubrité et engagement citoyen à Conakry. Un reportage est signé Tierno Ousmane Diallo, rendu ici par Gabi Dorsil.
Qualifié autrefois de perle de l'Afrique de l'Ouest, Conakry a récemment été classé par le magazine Forbes parmi les 20 capitales les plus sales au monde. En août 2017, l'éboulement de la décharge de Concasseur y a même fait 5 morts. Depuis, les appels à la mobilisation citoyenne s'intensifient. Munis de leurs smartphones, de nombreux jeunes photographient les lieux insalubres de la ville et partagent leurs publications sur la toile.
Il va falloir qu'on bouge le monde, qu'on bouge la jeunesse pour pouvoir nettoyer ici.
Avec des hashtags comme Conakry saine et propre ou les selfies déchets, ces activistes tirent la sonnette d'alarme et sensibilisent leurs concitoyens. Mohamed Dombouya est l'un d'entre eux.
Tous les grands mouvements, que ce soit sur les déchets, que ce soit le loyer cher, que ce soit l'éducation, toutes les dénonciations aujourd'hui se font sur les réseaux sociaux. Donc comme notre réalité se passe dans les ordures, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui on sente beaucoup plus les jeunes en train de dénoncer, en train d'agir, en train de montrer leur dégoût ou justement leur solution face à ce problème.
Ces bénévoles consacrent tout leur week-end à l'assainissement de la plage de la Minière transformée en dépotoir d'ordures. Venus des quatre coins de Conakry, ils veulent par leur action inviter la population à plus d'engagement et de responsabilité pour un environnement sain. Ainsi est née l'initiative Samedi Assainissement, dont fait partie Adama Camara.
À chaque fois, on dénonce sur les réseaux sociaux, dans les quartiers, on dit que Conakry est sale, on n'a plus de plage, tout est sale. Et donc, nous, on s'est dit de se lever et de passer à l'acte.
Je suis déjà fier d'être là.
Le jeune Alpha Diallo se sent fier de prendre part à cet élan citoyen.
D'être parmi des jeunes Guinéens comme moi, qui sont motivés pour une action citoyenne, parce que personne ne gagne de l'argent ici. D'accord ? Donc on sacrifie nos week-ends, notre dimanche, pour venir faire de l'action citoyenne, pour participer à la protection de l'environnement. Moi, je crois que c'est une très bonne chose, quoi.
La gestion des ordures est un véritable défi dans la capitale guinéenne, où 2000 tonnes de déchets sont produites quotidiennement. La ville ne compte qu'une décharge publique pour près de 4 millions d'habitants. Et malgré la création en 2016 d'une agence de l'assainissement, les moyens financiers et techniques sont largement inadéquats. En attendant, ce réveil citoyen suscite beaucoup d'espoir et la mobilisation se poursuit à Conakry.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Ce lundi, le ministère américain de la Santé et de la Sécurité intérieure au Tampomo a annoncé la fin d'un statut spécial qui protège d'expulsion plus de 200 000 Salvadoriens résidant aux États-Unis d'ici fin 2019. Un nouveau signe du durcissement de la politique migratoire de l'administration Trump. Eki Abadou a joint à New York Bibi Moussafiri, avocate spécialiste en droit d'immigration.
On peut dire que c'est un signe de durcissement parce que dans le cas de Salvadoriens, ils ont reçu ce bénéfice depuis 2001. Ils ont bénéficié d'un statut temporaire qui se reconduit tous les 18 mois. C'est-à-dire que tous les autres régimes ont reconduit ce bénéfice, mais le gouvernement de Trump veut y mettre fin.
Les conditions initiales causées par les séismes de 2001 n'existent plus, a expliqué dans un communiqué de presse le gouvernement, l'administration. Et là, il faut qu'ils préparent leur départ ou demandent un autre statut légal d'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de facile ?
Ce n'est pas évident parce que, en fait, le TPS, donc le statut de protection temporaire, est analysé sur la base de comment, initialement, le TPS a été donné. Donc, ils sont donnés en cas de guerre, en cas d'événements de force majeure tels que earthquake, ça voudrait dire les tremblements de terre, hurricane, etc. L'estimation pour dire que les conditions sont définitivement améliorées, c'est de regarder sur le terrain.
Alors, ce délai jusqu'à 2019 doit aussi permettre au Congrès de légiférer sur une solution permanente. Est-ce que vous pensez qu'il y a une autre solution possible ?
La solution possible est toujours là. Ça veut dire que le Congrès peut décider de donner la possibilité de ceux qui étaient sous la protection temporaire de devenir des citoyens permanents, soit la green card, ce qui serait la résidence permanente, et de continuer leur chemin vers la nationalité.
Le gouvernement Trump aussi parle des hôpitaux et des infrastructures qui ont eu le temps d'être reconstruits à Salvador. Est-ce que vous pensez qu'il y a un danger pour toutes ces populations de retourner subitement après avoir vécu tant d'années aux États-Unis ou après avoir eu des enfants aux États-Unis ?
Un rapport des Nations Unies de l'année dernière montre que El Salvador a le plus haut taux de crimes. Ce sont des gangs. Et en général, sur le terrain, ces gangs se dirige et target, ça veut dire qu'ils visent les Salvadoriens qui viennent des États-Unis. Donc ceux qui retournent dans leur pays sont en général visés par ces gangs. Personne qui est restée longtemps aux États-Unis et a eu des enfants aux États-Unis, c'est de faire cette décision de dire est-ce que je retourne dans mon pays avec des enfants nés aux États-Unis qui ne connaissent que cette société. Ou bien est-ce que je reste pour préserver mes enfants? Et à ce moment-là, je mets la famille en danger de déportation.
Bibi Moustafiri, avocate spécialiste en droit d'immigration à New York.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez à la appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Michel Joseph, Alfredo Santos était à la console. Présentation John Lyndon. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Bonsoir.